juste un petit mot, forcément, n'hésitez pas, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Camille nous a mis le petit lien en début de retransmission si vous voulez nous soutenir sur Tipeee.
Tipeee est une start-up florissante prise au cœur d'une vaste polémique qui en dit long sur notre époque. Tipeee se présente comme un outil qui permet à des chaînes YouTube, des vidéastes, des sites d'infos, des forums, d'en appeler à la générosité de leur communauté. Grâce à Tipeee, vous pouvez faire des dons, petits ou grands, à des projets que vous voulez soutenir. Sauf que parmi ces projets, il y a, à l'image du web, à boire et à manger. Une kyrielle de contenu sur la science, l'histoire, le cinéma, la cuisine, les jeux vidéo, formidable. Il y a aussi parfois des propos conspirationnistes, racistes, antisémites qui y transitent, qui y trouvent de l'argent et qui en rapportent à l'entreprise Tipeee. Interrogé par une équipe de France 2 sur la responsabilité de Tipeee dans le financement des fausses informations, le fondateur de Tipeee a lâché une phrase terrifiante expliquant qu'il soutenait tous ceux que la justice n'avait pas condamnés, même les pires. Il souhaite s'en expliquer ce matin.
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Bonjour Michael Goldman.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes PDG fondateur de Tipeee. On va revenir sur toute cette polémique suite à la diffusion d'une enquête diffusée sur France 2 en deuxième partie de soirée, signée Aude Favre et Sylvain Louvet. Je les avais reçus avant la diffusion, c'était diffusé dans la case complément d'enquête. On va y revenir, mais d'abord j'aimerais bien qu'on explique à tout le monde comment vous travaillez et ce que c'est que Tipeee. On a choisi tout un tas de jolies chaînes qui permettent, grâce à vous, de se financer.
Gilles Vernet, bonjour.
Bonjour Noël.
C'est avec vous que nous allons inaugurer cette série de podcasts que nous avons appelée « Sur la vie de ma mère ». Un jeu de mots que chacun appréciera.
Salut tout le monde.
Oula, tu viens d'où comme ça mon petit Fred?
J'arrive de l'année 2050.
En skate?
Oui.
Quand j'étais gamin et que je voulais découvrir un nouveau film, soit j'allais au cinéma, soit je l'achetais en DVD Blu-ray, soit j'allais le louer dans un vidéoclub. Les vidéoclubs, c'est une des plus belles choses qui ait existé.
Voilà, par ordre d'apparition, Noël ma mère, Fred, de C'est pas sorcier quand on était petit, et In the Panda. Voilà, il y a toutes sortes de créateurs de contenu qui transitent par Tipeee. Un tip en anglais, c'est un pourboire, Michael Goldman.
Exactement, et c'est tout le génie d'Internet, c'est de permettre à une multitude de chaînes, de passionnés et de créateurs de parler de leur passion et de la partager avec des centaines de milliers d'internautes. Et ce qui est génial dans Tipeee, enfin, je mets ça entre guillemets, en tout cas dans les modèles comme les nôtres qui ont émergé en 2013.
Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Vous êtes leader du secteur aujourd'hui.
Leader en France. En fait, on s'est lancé en 2013. Il y a Patreon qui s'est lancé en 2013 aussi aux États-Unis et qui a vraiment explosé. Mm-hmm. Et nous, en France, on a été les deux premiers, je pense, dans le monde. Et ce qui est génial, c'est que, en fait, grâce au tipping et grâce à cette philosophie-là, on inverse le paradigme du financement de la création et de la diversité sur Internet. Parce que jusque-là, ce qu'Internet n'avait à proposer, c'était que les revenus publicitaires. Et les revenus publicitaires, malheureusement, n'élisent qu'une face très émergée de l'iceberg de la création qui est,
énormément de clics.
Voilà. Exactement, donc il faut faire 10 millions de vues sur chaque vidéo pour pouvoir vraiment gagner sa vie avec la publicité. Or, sur Internet, 90% de la longue traîne, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de la création, c'est des passionnés de physique quantique, de mathématiques, de philosophie, de choses comme ça, qui n'ont pas vocation à faire 10 millions de vues sur chaque vidéo. Et la publicité n'élit que les tutos make-up, globalement.
Donc c'est vous qui les démarchez, tous les créateurs de contenu, pour qu'ils rejoignent Tipeee, ou c'est eux qui viennent vous chercher, ça dépend, j'imagine.
Alors au tout début, quand on a lancé Tipeee, comme c'était quelque chose de très nouveau, c'est nous qui les avons démarchés, et maintenant en fait c'est le bouche à oreille, et tout le monde connaît Tipeee sur Internet, et les gens se créent des pages Tipeee sans
qu'on ait besoin de démarcher. De quel montant sont les dons?
Alors la moyenne, je crois que c'est 10 euros en moyenne. Disons que Tipeee est basé sur deux types de dons, le don one shot, comme on donne un pourboire une seule fois, et je crois que le montant est assez élevé, je crois que c'est un peu plus de 14 euros de moyenne. Mais il y a aussi le don récurrent qui est en fait la base de Tipeee et de notre business, c'est des gens qui s'engagent à donner tous les mois. Et ça, je crois que c'est environ 6,70 €, donc ce qui est quand même assez élevé. Et ça permet en fait à des dizaines et des centaines de milliers de créateurs qui ne pouvaient pas se professionnaliser, qui ne pouvaient pas vivre de leur passion, de devenir des professionnels et de vivre de leur passion.
Alors ça permet à certains d'entre eux aussi de monter des projets exceptionnels pour lesquels ils font une campagne, ils organisent une campagne de récolte de dons. Parmi eux, le réalisateur d'Hold Up, documentaire complotiste sur le Covid, qui a été diffusé uniquement sur le web et qui a récolté en quelques mois plusieurs de dizaines, même plusieurs de centaines de milliers d'euros. On écoute un extrait de Hold Up.
Finalement, il n'est pas dangereux, ce virus. Il est un peu plus dangereux que le coronavirus naturel, puisqu'on a foutu des saloperies. Mais c'est pas dangereux. Ce qui est très dangereux, c'est le vaccin qui va en sortir.
Par qui a été fabriqué ?
Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur.
En très peu de temps, et ça a même été un record, le réalisateur de Hold Up a récolté 150 000 euros de dons grâce à Tipeee et 182 000 euros grâce à une autre plateforme qui s'appelle Ulule. Ulule a finalement décidé de ne pas se rémunérer sur cette récolte de dons, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais vous prenez une commission, ce qui est bien normal, vous vous rémunérez. Ça n'est pas un passe-temps et ça n'est pas de la philanthropie. Vous avez décidé non seulement de reverser ces dons à ceux qui cherchaient à les récolter, mais en plus de vous rémunérer là-dessus.
Oui, mais en fait, ça relève de la problématique générale des plateformes comme les nôtres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on permet, grâce à nos services, d'offrir la parole à des centaines de milliers de créateurs sur Internet, forcément, la question qui se pose, c'est de savoir, ok, mais est-ce qu'on met un filtre ? Est-ce qu'on autorise tout ? Et donc là, se pose la question de notre statut juridique. Et nous, ce que dit la loi en France, c'est qu'on est des hébergeurs et pas des éditeurs, et qu'à ce titre-là, on n'a aucun devoir de filtrer quoi que ce soit. Il n'empêche que toutes les plateformes, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on est des gentilles personnes, on s'est tous fixé un cadre moral en disant il y a des choses qu'on autorise et des choses qu'on n'autorise pas. Et en France, il y a quelque chose qui nous est très précieux, qui s'appelle la liberté d'expression, mais aussi parce qu'on est passionné d'Internet. Et cette liberté d'expression en France, on la chérit parce que c'est un héritage séculaire. Et cette liberté d'expression en France, c'est pas du tout la liberté d'expression américaine. En France, elle est très conscrite. Il y a des choses qu'on n'a pas du tout le droit de dire. Et on s'est dit, nous, que ce droit dont on avait hérité et qu'on chérit, il nous impose un devoir. Et ce devoir-là, c'est d'accepter aussi d'avoir à côté de nous, à la même table, des gens dont on déteste la parole, qu'on n'aime pas, mais qui restent eux aussi dans le cadre de cette liberté d'expression.
Voilà.
Alors, et c'est notre politique de modération.
Il y a
une
équipe de France 2 qui est venue vous voir. J'explique d'où est venue la polémique, Michael Goldman. Il y a une équipe de France 2 qui a tourné une longue enquête intitulée Fake News, la machine à fric. Leur question était une excellente question. C'est-à-dire, tous ces sites qui propagent des fausses informations sur des sujets extrêmement graves et extrêmement dommageables pour la démocratie, il faut bien qu'ils vivent de quelque chose. Voire, pour certains d'entre eux, notamment aux États-Unis, en Belgique, carrément qu'ils s'enrichissent. Donc, ils ont été chercher d'où vient l'argent. Ils sont venus vous interroger, notamment à propos de Hold Up, et vous avez lâché cette phrase.
En fait, j'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et voilà, et du plus complotiste au moins complotiste. J'assume tout ce qu'il y a sur ce site parce que tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site, et je leur dis même que nous, on fera en sorte de les défendre sur le site. Voilà.
Michael Goldman, fondateur de Tipeee sur France 2. Après, il y a eu quand même une énorme polémique, ce qui est bien normal. Comment on peut dire plus ou moins antisémite ? Comment on peut accepter même le moins antisémite, qui est antisémite quand même ? Comment on peut dire plus ou moins complotiste, même le moins complotiste et complotiste quand même ?
Vous savez, c'est Pierre Bourdieu qui disait « je veux pas aller en télé parce que en une phrase, je peux me mettre toute la France à dos, sauf si on me laisse 1h30 pour l'expliquer. » Et ben moi, j'ai parlé 1h30 à des journalistes où je leur ai expliqué notre politique de modération. Ils n'en ont gardé qu'une seule phrase qui était l'aboutissement d'un débat. La vérité, c'est que notre politique de modération sur Tipeee, qu'on leur a très bien expliqué, qu'ils connaissent très bien et qui manifestement n'est pas dans le reportage, c'est que en se bornant à accepter uniquement ce qui reste dans la liberté d'expression, on exclut de fait tout ce qui est antisémite et xénophobe a priori. Mm-hmm. Donc tout ce qui est condamnable juridiquement est exclu. Et à ce moment-là, les journalistes sont arrivés en disant « oui mais il y a ça, oui mais il y a ça, oui mais il y a ça », qui sont que des projets qu'on connaît, qui ont tous été visés par nos avocats et qui sont tous strictement légaux. Eux pensent que c'est antisémite, mais leur avis à eux compte autant que notre avis à nous, et en fait il ne vaut rien du point de vue du législateur. Et on se fait un principe, nous, et même un devoir, de défendre et d'accepter les paroles qui restent dans le cadre de la liberté d'expression, parce que si on n'accepte pas ça, on rompt les digues de la liberté d'expression, on ouvre une porte qui est la porte, enfin pour nous, qui est la porte du chaos, et globalement de la loi du plus fort. Et c'est tout ce qu'on veut pas pour Tipeee. Ce qu'on veut sur Tipeee, c'est que le débat national puisse avoir lieu, et que du plus complotiste, c'est-à-dire Hold Up, au moins complotiste, qui est Aude Favre, qui est la journaliste, qui a fait le reportage de complément d'enquête, qui est elle-même une youtubeuse, qui était elle-même sur Tipeee depuis des années, qui gagnait des milliers d'euros sur Tipeee, et dont le but est de débunker les...
Mais qui n'est pas complotiste du tout.
Mais justement,
oui,
mais
voilà.
Elle, c'est la
mais
moins
c'est
complotiste.
C'est pas moins complotiste, c'est pas complotiste du tout.
Si vous le voulez, oui.
Je pense que quand même, il y a des limites à ce qu'on peut dire. Il n'y a
après...
pas plus ou moins antisémite, il y a des gens qui ne le sont pas du tout. Et il n'y a pas plus
Absolument.
Ou moins complotiste,
mais
il y a
si...
des gens qui ne le sont pas du
si...
tout.
Si la question que vous me posez, c'est est-ce que si j'avais dû faire de la communication pour Tipeee et choisir un slogan pour expliquer ce qu'on est, j'aurais pris cette phrase, je vous confirme que non. Ce que je voulais dire à ce moment-là, c'était du plus polémique au moins polémique. Tout ce qui est sur Tipeee est légal, et à ce titre-là,
oui,
on accepte tout.
Oui, ouais. Oui, oui. Alors après, il y a légal, et puis il y a éthique, et puis il y a morale, et puis il y a tout ce qu'on peut aller chercher comme nuance. Il n'y a pas que la
Bien
loi.
Bien sûr, mais
j'imagine.
Mais parlons de modèle. Si c'est pas la loi qui décide, quel modèle vous nous proposez? Qui décide? C'est Aude Favre et Sylvain Louvet qui décident qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler sur Internet?
Ce sont les deux réalisateurs du complément d'enquête. Voilà. Soit c'est eux, soit c'est vous. Après tout, pourquoi pas? On peut aussi avoir une éthique quand on fait du business et on peut aussi avoir une certaine morale. Parce qu'on sait bien, Michael Goldman, que par exemple, la toile est un puits sans fond, que la justice est lente, que la justice n'est pas très efficace. Donc vous retrouvez avec une responsabilité qui est extrêmement, et je suis entièrement d'accord avec vous, extrêmement difficile à assumer.
Mais je trouve pas qu'elle soit difficile. Je vous dis sincèrement, le problème, c'est qu'il y a un mélange des genres, c'est qu'on a l'impression que la liberté d'expression est un concept qui vole comme ça et qui est la même chose partout. La liberté d'expression en France, c'est pas du tout la liberté d'expression américaine. La liberté d'expression en France, elle est très conscrite. Il y a énormément de choses qui n'ont pas le droit d'être dites. Et nous, en appliquant le plus strictement possible ce que la liberté d'expression en France nous dit, sur 50 000 projets sur le site, il y en a 4 qui ont dérangé ces journalistes de complément d'enquête qui voulaient chercher la petite bête. Ces 4 projets, je le dis, tout ce qu'ils disent a priori est légal, ce qui prouve que quand on applique en fait les règles de la liberté d'expression française, ça marche.
Non mais c'est extrêmement intéressant.
Notre concurrent qui a été érigé en bon samaritain de l'histoire, parce que eux ont a priori une charte.
Alors,
il y a un journal qui s'est dit je vais chercher ce qu'il y a sur leur site. Ils ont trouvé 14 projets polémiques en 24 heures.
Oui, absolument. Donc, journal s'appelle Numérama. On va expliquer ce qui s'est passé. Donc vous lâchez cette phrase que sincèrement je trouve effarante et qu'aujourd'hui vous dites regretter, parce que quand même voilà, mais je pense qu'il y a
pas plus.
Mais
que vous comprenez mieux.
Non, plus ou moins antisémite, je comprends pas. Moins antisémite, je comprends pas. Pour moi, il y a antisémite ou pas antisémite. Il y a pas plus ou moins. Mais voilà. Donc derrière, ça crée une polémique pas possible. Il y a une poignée, enfin non négligeable quand même, de youtubeurs qui disent nous on se retire de Tipeee, on veut pas être associé à ce type de démarche qu'ils estiment trop cynique ou trop laxiste, de dire moi derrière la loi je m'en lave les mains. Donc forcément ça a engendré un impact sur votre business. Ce qui est important quand même, c'est que oui, en effet, certains d'autres ont dit il y a des concurrents qui sont plus moraux. D'ailleurs, uTip avait publié une charte déontologique, et en effet il y a des journalistes de Numérama qui ont été cherchés et qui ont dit la modération manuelle, ça va, mais en réalité, ça laisse passer plein de choses qui sont quand même très problématiques. Je vous fais écouter deux extraits, un de Salim Lahibi, peut-être que c'est ça que les journalistes de France 2 vous ont mis sous le nez, le titre de sa vidéo « Antisémite et fier de l'être ».
J'ai fait un résumé de toute la mafia juive en m'appuyant notamment sur un bouquin assez pointu, assez exceptionnel d'Hervé Rissen, La mafia juive. Et l'actualité, donc l'actu c'est quoi? L'actu, ben, c'est Goldman Sachs, l'actu c'est le rabbin qu'on a chopé.
On en a assez entendu comme ça. Je vous fais écouter aussi un autre extrait des décodeurs. Alors les décodeurs, au départ, c'était un site du Monde qui se proposait de démêler le bon grain de livret dans les sites d'info sur le web, et là ça a été détourné. Les décodeurs DEQUUODER.fr, et c'est un des principaux forums de la communauté QAnon, donc lourdement conspirationniste en France.
Si on veut, c'est Q qui nous a mis dans la piste, c'est Q qui nous a permis d'avoir cette avance, c'est Q qui nous a permis d'avoir une compréhension de l'échiquier, c'est Q qui nous a éduqués au niveau du complot, c'est Q qui nous a permis de nous préparer psychologiquement.
Là aussi, je pense qu'on en a assez entendu. Alors, Michael Goldman, je comprends très bien votre position. Et ensuite, il y a comment moralement on fait du business. Et comment moralement on se dit que les temps ont changé entre 2013, le moment où vous avez fondé Tipeee, et aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu l'impact que ça peut avoir sur les démocraties contemporaines. Et donc, il y a aussi un terme de responsabilité intime et personnelle. Il y a aussi une question de conviction.
Bien sûr, mais notre responsabilité, précisément, c'est de ne pas rompre les digues de cette liberté d'expression, parce que sinon, le scénario qui s'ouvre, pour nous, est encore bien pire.
Pire que ce qu'on vient d'entendre ?
Alors, écoutez, les projets dont vous parlez, pour résumer, aujourd'hui, c'est des projets qui touchent, sortis de la période hold-up du mois où ils ont gagné beaucoup d'argent, c'est des projets qui touchent 3000 euros par mois, en cumulé.
Donc, 3000 euros, c'est un salaire parfaitement acceptable pour la plupart des Français.
En cumulé, c'est-à-dire les quatre.
Ouais. Ah d'accord, les quatre.
Voilà, ce qui représente pour nous un enjeu de 150 euros par mois. Donc faire porter à Tipeee la responsabilité du développement du complotisme et des fake news sur Internet me semble totalement démesuré. Par ailleurs...
On est d'accord, et d'ailleurs personne ne l'a présenté comme ça. Enfin, je crois pas.
Oh bah, Vous êtes l'un des acteurs... J'avais l'impression que c'était ça qu'on disait.
Non, je crois pas. Vous êtes l'un des acteurs d'un système qui permet à ces sites soit d'engranger de la publicité, même à petit niveau, soit d'engranger des rémunérations via une communauté qui les soutient.
Oui,
vous êtes l'un des acteurs.
Après, encore une fois, tous ces projets, on les connaît. Ouais. Moi, je vais pas me faire le défenseur. Enfin, me mettez pas dans une position de défendre QAnon et Salim Laibi. Je suis un garçon complètement normal. J'ai des avis politiques complètement normaux. Et d'ailleurs, mon avis politique n'a absolument strictement aucun intérêt dans cette question-là. Ces gens-là se défendent tout seuls. Il s'avère que tous, je vous le dis, parce que nos modérateurs les ont supervisés, que les avocats les ont supervisés, rien de ce qu'ils disent n'est illégal au regard du droit. Ça peut vous déplaire. Moi, ça me déplaît aussi, en fait. Je suis comme tout le monde, en fait. Mais rien de ce qu'ils disent n'est illégal au regard du droit. Je crois même que Salim Laibi est suivi depuis 13 ans. Ça fait 13 ans qu'il exerce sur Internet, qu'il est suivi par la LICRA, qui nous a confirmé qu'il n'avait jamais été condamné pour antisémitisme. Donc tous les schémas que vous pourriez m'opposer aujourd'hui, c'est de dire, mais en fait, Mickaël, c'est très bien ce que tu dis, mais la liberté d'expression, nous, on s'en fout, on veut s'asseoir dessus, et on veut juste que vous punissiez, que vous fassiez des jugements expéditifs, des délits d'opinion, des exécutions sommaires sur Internet, qui est en gros ce qu'on nous propose et qui est le seul modèle qu'on nous oppose au respect de la liberté d'expression. Et moi, ce monde-là, sincèrement, me terrifie. Et comme disait Chomsky, le combat pour la liberté d'expression n'a d'intérêt que s'il s'agit de défendre les paroles qu'on déteste. Se battre pour les paroles avec lesquelles on est d'accord est évidemment un combat sans intérêt. Et donc, évidemment, et surtout, en plus, il y a un truc qui m'a énervé dans votre présentation. Je suis désolé, mais je vous adore.
Mais je vous en prie.
Il y a un truc qui m'a énervé.
Non, mais allez-y, de toute façon.
C'est quand vous parlez de cynisme et de c'est évident, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que tout dans Internet nous appelle à suivre ce courant-là et à dire, oh là là, ça dérange, on vire. C'est ce que tout le monde fait, mais ils le font tous parce que c'est ça qui rapporte de l'argent. Nous, on perd toujours de l'argent à avoir ces projets sur le site. Et je sais que ça paraît fou.
Comment ça?
Ah bah écoutez, il suffit de voir ce qu'un shitstorm coûte. Est-ce que c'est 150 euros?
Expliquez ce que c'est qu'un shitstorm. Expliquez ce que c'est. C'est toute la polémique qui est née après vos propos diffusés sur France 2. Voilà.
C'est ça. Vous avez expliqué en gros qu'il y a quelques dizaines de youtubeurs qui sont partis de Tipeee. Bon, en l'occurrence, ils sont pas vraiment partis, mais limite peu importe. Ce que ça me coûte en temps, en énergie et en argent.
Et en image.
Et en image est infiniment plus coûteux que les 150 euros que ça me génère aujourd'hui de les garder sur le site. Et je ne les garde non pas parce que je les aime, je ne les garde pas par complaisance. Je les garde juste parce que si je les vire, je deviens une plateforme politique qui décide qu'il y a des gens qui ont le droit de parler, des gens qui n'ont pas le droit de parler.
Aujourd'hui, que les GAFAM sont devenus des plateformes politiques?
Oui, je pense qu'aux États-Unis, il y a un phénomène qui est très inquiétant. Où les patrons de start-up s'érigent le droit de décider de ce qui a le droit de parler, de ce qui n'a pas le droit de parler, et que c'est à mon avis le transfert. C'est-à-dire que la liberté d'expression pour moi a été construite et nous a été léguée par nos anciens pour dire voilà, on vous protège d'une
tyrannie. Extrêmement inquiétant, Mickaël Goldman.
Ah oui, vraiment inquiétant. Ouais.
Vraiment inquiétant ou extrêmement rassurant quand on a vu quand même des milices civiles déferler sur le Capitole et quand on a vu en pleine épidémie des fake news déferler sur la planète entière, extrêmement inquiétante ou extrêmement rassurante? C'est une question très sincère que je vous pose. Est-ce qu'on pouvait continuer?
Je vous réponds sincèrement, je suis pas un spécialiste de la géopolitique américaine. Je sais que la France et l'Amérique, c'est pas la même chose et je bénis notre liberté d'expression française. Et ce qui se passe aux États-Unis me semble être... je suis pas un historien, je suis pas un philosophe. Ce qui se passe aux États-Unis me semble être le revers d'une médaille d'une liberté d'expression qui est quasi libertarienne. Et je trouve ça normal qu'Internet émergeant, il y a une espèce de contre-courant moral qui dise, attendez, cette liberté d'expression, c'est trop. Et ça rend la vie insupportable. Mais en France, nous n'avons pas la même liberté d'expression, nous n'avons pas la même histoire. Notre liberté d'expression, c'est 1500 ans d'histoire de gens qui ont dit, qui ont vécu les guerres de religion, qui ont vécu les décapitations, qui ont vécu des révolutions, qui ont vécu des guerres civiles, et qui disent, voilà les enfants, il y a un cadre qu'on a créé, et dans ce cadre-là, il est possible de faire société, de faire nation, et de se parler. Voilà. Et nous, on tient à ça, et on croit à ça, et à partir du moment où on remet ça en danger en France, moi, ce qui se passe aux États-Unis, ça les regarde.
Et en un mot, parce que l'émission est terminée, est-ce que vous trouvez que la justice est assez efficace, est assez rapide dans sa régulation du web aujourd'hui en France? Puisque vous vous abritez derrière la justice.
Non, on ne s'abrite pas derrière la justice, on exécute ce que la justice nous dit de faire, mais quand vous dites ça, vous laissez entendre que tant qu'il n'y a pas de décision justice, on garde les projets sur le site. Ça n'est pas le cas. On retire tous les projets qui sont condamnables de manière évidente. D'accord. Il s'avère que les 4 projets que les journalistes de complément d'enquête nous ont posés ne sont pas condamnables de manière évidente. Et d'ailleurs, ils sont suivis pour certains par des associations qui n'ont jamais réussi à les faire condamner, ce qui prouve qu'a priori, ils ne sont pas condamnables de manière évidente.
Mickaël Goldman, qui est PDG de Tipeee, merci d'être venu vous expliquer ce matin au micro de l'Instant M.